budget beaucoup plus conséquent, ce qui est normal. Non, c'est sur le mode suivant. Tous les artistes sont venus voir le lieu, avec moi. On s'est promené dans la ville, on s'est imbibé de la ville. Ils se sont imbibés de la ville. Tous ces artistes, je les connais, je travaille avec eux, parfois depuis très longtemps. Et en amont, dans mon esprit, je savais que ah, ça serait bien que s'il réagissait, et je vois tellement bien le cactus de Sibérie, Richard Di Rosa, dans ce magnifique paysage du jardin méditerranéen, je vois tellement bien Vincent Barré, avec sa rigueur minimaliste, dans cette cour du musée, je vois tellement bien, etc., la licorne de Sabaté surgir dans ce bassin du parc Saint-Louis. Et ben voilà, les choses se sont faites, parce que tout ça est une question d'échange, de dialogue. Pour certains, ou du moins pour une d'entre elles, pour Raphaël de Broissia, elle a souhaité réaliser une œuvre sur place. Aussi, il faut le savoir, elle est, elle, de l'autre côté de la France. Elle est du côté d'Annecy. Donc, voilà, c'était... elle pouvait pas être souvent là, ou donc elle a profité, parce qu'elle va souvent à Trouville, elle a profité d'un déplacement pour s'imbiber de la ville et avoir envie de créer cette pièce dans cet écho avec, je le disais, des images des vitraux de la cathédrale. Donc, tous, ils ont vraiment vécu le lieu.
On l'évoque, il y a l'exposition, mais autour de cette exposition, et tu l'abordais tout à l'heure, l'importance de la médiation qui peut être faite autour. Il y a un programme de médiation, d'atelier qui sera fait durant toute la période de cette biennale.
Absolument.
C'est-à-dire de samedi 23 mai jusqu'au 20 septembre. Il y aura des animations, des ateliers, des choses qui sont proposées tout au long de la biennale.
Il y aura des séances de bien-être. Hein, tout ça, c'est dans le document qui est apporté de tous les publics. Donc, le 14 juin, une séance de bien-être, une autre le 5 juillet. Il y aura des petits rendez-vous de l'art contemporain en juillet et en août. Il y aura un atelier avec l'une des artistes, avec Raphaël de Broissia, justement, le 18 juillet. Et puis, il y aura des jeux d'artistes le 19 juillet. Et enfin, un atelier aussi, à nouveau, avec Michel Nattier, au début du mois de septembre, le 5 septembre. Donc, c'est une biennale qui est très vive, très prospective et qui est destinée à appeler l'autre, c'est-à-dire le visiteur, et à lui faire partager notre passion, parce que finalement, c'est le mot clé de ce rapport à l'art.
Et comme tu le disais, on vous invite à aller consulter le programme qui se trouve sur internet à culture.evreux.fr ou la brochure, parce que c'est plus de 30 propositions qui sont faites. On ne va pas les égrener parce que ça va être
long
et pas intéressant.
Juste en ajouter une, c'est à partir du 12 juin, l'exposition qui va se tenir à la Maison des Arts de Jean-Marc Thomen, qui est inclus dans l'aventure de la Biennale.
Eh bien, je te propose une dernière pause musicale avant que nous arrivions à la conclusion pour placer le maximum de choses qu'on aurait oublié de raconter. Mais juste entre deux, on écoute les Vulves Assassines avec Louise Michel. Les vulves assassines avec le titre Louise Michel.
Oh bah c'est bien, et ça va passer à la télé, non?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio alors, sans être...
Oui. Principe actif à Évreux.
Oui.
HDR à Rouen.
Oui, bah merci de toutes ces précisions.
HDR, principe actif.
Et nous arrivons à notre dernière ligne droite, en fait à notre ligne de sortie même. Nous sommes toujours avec Philippe Piguet, commissaire d'exposition de la Biennale d'art contemporain d'Évreux. Et puis globalement, il nous reste 30 secondes pour conclure à peu près. Hein. C'est ça l'idée, Philippe. Est-ce qu'il y avait des éléments hyper essentiels à insister ?
Bah, peut-être rappeler que la Biennale, c'est du 23 mai au 20 septembre, donc il y a beaucoup plus que 30 secondes pour y aller, qu'il faut y aller absolument, et puis se laisser emporter par tout ce qu'on propose, quelles que soient les réactions, parce que finalement, bah, il y aura des réactions positives, il y aura des réactions négatives, mais surtout, qu'il y ait des réactions.
Et c'est ça l'essentiel. Moi, sur ces visites d'expos en extérieur, de biennale notamment, c'est super quand on descend boire un coup en ville. On n'est pas obligé de faire tout le parcours. On fait le petit tour avant de retourner à la voiture, avant de rentrer.
Absolument, on pioche ici,
deux,
on
trois
pioche
trucs.
Là, et puis voilà.
Et la fois d'après, quand on ira au resto à un autre endroit, on ira faire un petit tour ailleurs. Et la fois d'après, quand on ira voir un copain, ben, on ira faire un petit détour pour voir le reste. On a le temps. C'est
en tout
ça
cas,
l'idée.
Bravo à la ville d'Évreux de mettre l'art contemporain dans la rue.
Merci beaucoup Philippe Piguet d'être passé par nos micros. Nous, on vous souhaite une bonne journée. Restez à l'écoute de nos programmes parce qu'ils sont cool.
Il est 7h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
Clotilde Dumay.
Le journal international avec vous, Julien Coquelrem.
Et à la une, 5000 soldats américains bientôt envoyés en Pologne. L'annonce de Donald Trump à quelques heures d'une rencontre qui promet d'être houleuse entre Marco Rubio et les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Le chef de la diplomatie américaine s'est interrogé hier sur l'intérêt pour les États-Unis de rester dans l'alliance. En Chine, un rendez-vous au diapason du tournant opéré par les guerres en Ukraine et en Iran. Le congrès mondial des drones a commencé hier et dans notre dossier du jour, on se penche sur les drones Shahed de l'Iran, les difficultés qu'ils posent aux armées occidentales. À la une également, la Turquie est le principal parti d'opposition qui dénonce un acharnement judiciaire. La justice a destitué hier la direction du CHP. Et puis, Stephen Colbert tire sa révérence aux États-Unis. La fin du Late Show de CBS, vu par beaucoup comme la victime des pressions politiques de Donald Trump.
5000 militaires américains envoyés en Pologne, l'annonce de Donald Trump hier soir.
Qui met en avant sa bonne relation avec le président nationaliste Karol Nawrocki, élu il y a un an, trois semaines après l'annonce du retrait du même nombre de soldats en Allemagne. Et alors que le Pentagone avait remis en cause la semaine dernière le déploiement en Pologne justement de 4000 militaires, impossible pour l'instant de savoir si le président américain l'a simplement rétabli ou s'il parle de troupes supplémentaires. L'enjeu est de taille en tout cas, alors qu'aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN se réunissent en Suède. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, sera de la partie. Et il a donné le ton hier en accusant l'Alliance Atlantique de refuser de faire quoi que ce soit pour aider les États-Unis dans leur guerre contre l'Iran. Il y a quelques semaines, Donald Trump disait envisager se retirer de l'OTAN, Pierre Benazet.
Marco Rubio a expressément mis en doute l'utilité de l'OTAN pour les États-Unis. L'exaspération américaine s'est déjà traduite par l'annonce du retrait d'Allemagne de 5000 soldats américains, ce qui provoque de vives inquiétudes dans les rangs des Européens. Et le secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte, s'emploie à rassurer les alliés.
Je ne suis pas inquiet car c'est exactement ce dont nous discutons depuis plus d'un an maintenant. L'Europe se mobilise, le Canada se mobilise et nous dépensons davantage. Nous assumons davantage la responsabilité de notre propre défense et mettons fin à notre dépendance excessive vis-à-vis d'un seul allié. Il est donc juste que nous rééquilibrions cette situation afin que les États-Unis puissent eux aussi se recentrer davantage sur d'autres théâtres d'opération. Nous sommes donc tous dans le même bateau, mais cette dépendance excessive doit cesser. Nous sommes dans un processus structuré tout à fait normal.
Le Pentagone doit publier incessamment son modèle de force, un document qui détermine le volume des contingents prépositionnés dans le cadre de l'OTAN, et une réduction drastique serait vécue en Europe comme une menace pour l'existence même de l'Alliance Atlantique. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Et ce matin, Marc Rutte salue l'annonce de l'envoi de soldats américains en Pologne, mais souligne que l'Alliance ambitionne toujours d'être moins dépendante des États-Unis. Et hier, Marco Rubio a aussi proposé que les pays de l'OTAN, hors États-Unis, s'engagent à consacrer au moins 0,25% de leur PIB au soutien à l'Ukraine. Il salue les efforts de certains États comme l'Allemagne et les Pays-Bas, mais affirme que les dépenses doivent être mieux partagées.
Le chef de la diplomatie américaine plus optimiste sur un autre dossier.
Il dit ne pas vouloir l'être trop, mais Marco Rubio fait bien état de progrès dans les discussions avec l'Iran, alors que les médias iraniens font état d'une visite à Téhéran aujourd'hui du chef de l'armée pakistanaise pour poursuivre la médiation. Espérons que cela fera avancer les choses, dit Marco Rubio, qui souligne toutefois que la mise en place d'un système de péage dans le détroit d'Ormuz par l'Iran rendrait impossible toute solution diplomatique.
L'Iran, l'Ukraine, deux guerres où les drones se sont retrouvés au premier plan.
Et les mêmes drones. Dans les deux cas, les Shahed, produits par l'Iran et que l'armée russe a aussi intégré dans son arsenal. Alors qu'hier a débuté en Chine le congrès mondial des drones, c'est notre dossier du jour. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour Julien.
Les premiers retours d'expérience de la guerre en Iran ont mis en exergue l'extrême fragilité des systèmes de défense occidentaux face aux drones longue portée comme le Shahed. Chacun cherche la parade.
Oui, en effet, peu coûteux, facile à produire et difficile à intercepter. C'est le triptyque gagnant du Shahed qui s'impose en Ukraine et au Moyen-Orient comme l'une des armes les plus craintes du moment. Pour s'en protéger, les armées font feu de tout bois. Les Américains ont même vidé leurs soutes de missiles solaires. Selon une étude du Centre d'études stratégiques et internationales, le CESI, publiée fin avril, près de 1400 missiles de défense solaire Patriot ont été tirés dans le golfe Persique au coût unitaire de 5 millions de dollars. Eh bien, ce n'est pas tenable. Le drone Shahed vient donc percuter les équilibres militaires. Point de Vincent Touré, chercheur à l'IFRI.
Le vrai problème, en fait, c'est la disponibilité du feu. C'est le coût de nos salves et de notre interception. On a un modèle de défense anti-aérienne, et donc de lutte anti-drone par extension, qui était basé sur l'idée qu'en fait, notre puissance aérienne elle-même allait pouvoir nous préserver en fait de toutes les frappes adverses. Mais en fait, les drones en fait démocratisent totalement cette capacité à faire feu. Et si nos hélicoptères, les missiles, notre aviation, etc., toute cette capacité de frappe en profondeur est immobilisée par l'interception des Shahed adverses, quelque part l'ennemi aura réussi à un effet majeur contre nous, puisqu'en fait il nous aura privés de nos armes les plus puissantes. Il faut qu'on développe des moyens beaucoup plus low cost, beaucoup plus cheap, calibré sur l'interception des menaces drones adverses.
Franck, la lutte anti-drone est donc le sujet militaire majeur du moment.
Et au salon de l'armement Eurosatory en juin prochain à Paris, il devrait être beaucoup question d'intercepteurs de drones Shahed. L'armée française a déjà élaboré sa doctrine et pense avoir trouvé la parade, indique le colonel Philippe Bignon, en charge du laboratoire du combat futur.
Réussir à répondre à la symétrie de ce coffre des vecteurs comme le Shahed, c'est-à-dire porter la menace loin et pour un coût dérisoire. On avait déjà anticipé les façons de se protéger face à cela, donc avec des vecteurs plutôt à bas coût. Et donc on a conduit très récemment des évaluations avec un certain nombre d'industriels qui sont concluantes et qui vont permettre sans doute dans l'année à venir de créer une première capacité qui permettra d'être très efficace face à ce genre de vecteurs.
Ce seront donc des drones qui, de manière autonome, pourront détruire des nuées de Shahed.
Absolument, c'est ce qu'on souhaite développer, oui.
Voilà, drones et drones anti-drones, Julien, tout cela dans un espace aérien saturé. L'interopérabilité des machines entre elles est donc une équation difficile. C'est l'autre sujet du moment. Les Ukrainiens ont développé un logiciel de gestion des voiles appelé Delta, et on en parle beaucoup dans les salons dédiés aux drones, que ce soit en Chine ou en Europe.
Franck Alexandre, pour notre dossier du jour, merci beaucoup.
Dans l'actualité également, Julien, un pays qui peine à se stabiliser.
Un an et demi après la chute de Bachar al-Assad en Syrie, les autorités de transition interpellées sur la situation économique. Des milliards d'euros d'investissement ont déjà été promis au pays à la suite de la levée des sanctions occidentales. Mais la plupart des Syriens en attendent toujours les répercussions concrètes. C'est encore plus le cas des régions déjà marginalisées sous l'ancien régime. Elles ont laissé exploser leur colère ces derniers jours, à Blajounaï.
Une colère qui explose et s'expose sur les réseaux sociaux. À Deir ez-Zor, comme à Raqqa ou Hama, les fermiers sont montés en ville pour protester contre la hausse des prix, ceux des carburants, des intrants. Circonstance aggravante, le gouvernement vient de fixer à $300 seulement le prix de la tonne de blé. La ruine guette. Comment les autorités centrales accueilleront-elles cette colère dirigée contre elles ? À Damas, c'est d'abord le père du président syrien qui s'exprime sur le sujet. Au détour d'une interview télé, il lâche « Ce sont des sauvages ». Le lendemain, le fils Ahmed est obligé de réparer la bourde paternelle au téléphone. Il appelle le gouverneur de Deir ez-Zor pour s'excuser au nom du père. Affaire classée, croit-on, mais le sentiment d'abandon demeure. Abou Abdallah est originaire de Deir ez-Zor.
Notre ville est détruite à 80%. J'ai dû déménager à Al-Bab pour assurer une éducation à mes enfants. Tout est défectueux à Deir. Jusqu'aujourd'hui, pas une seule entreprise étrangère n'est venue chez nous, pas même dans le secteur du pétrole. Nous aussi, nous voulons le développement.
Le président de transition a promis des travaux pour rénover routes, ponts et hôpitaux de la ville de Deir ez-Zor, ravagée par 15 ans de bombardements, de combats entre régimes, rebelles, puis soldats de l'organisation État islamique.
Abla Junaydi.
En Turquie, c'est un coup dur contre le principal parti d'opposition à Recep Tayyip Erdogan.
Un tribunal d'Ankara a annulé hier le congrès qui avait mené à l'élection d'Özgür Özel à la tête du CHP. La justice souligne des irrégularités présumées, mais le parti dénonce, lui, un acharnement judiciaire. Orchestré par le pouvoir, il croule sous les enquêtes et les procès depuis sa victoire aux élections locales de 2024. Et hier soir, la direction du CHP, déchue par la justice, appelait ses membres à manifester à Ankara. Anand Lauer était sur place.
Façade du CHP, où tous les étages sont éclairés malgré l'heure tardive, on déploie un portrait géant d'Özgür Özel, le chef du parti, celui que la justice vient de destituer. Pas la justice, corrige Dilek la cinquantaine.
Ce n'est pas une décision de justice. La justice est aux mains du pouvoir. C'est une décision politique. C'est celle de Tayyip.
La colère vise autant le président Recep Tayyip Erdogan que l'ancien chef du CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, que le tribunal a remis à la tête du parti. Traître vendu, crie la foule. Elle sonne une jeune militante.
Walk with me. I can move alone. It's cold outside. I couldn't see my shadow. Taking it's me, 'cause I was so mad. Hear the proof that we are one, I swear. Nobody else but you. Asking for help, how should I do? When all we crossed is that those days, but I cry the tears on my body if I'm losing again. Nobody else but you.
Des jeudis juin, Principe Actif est mis à l'honneur pour la seconde année consécutive. 5 de vos émissions préférées et leurs animateurs s'emparent des platines le jeudi 4 juin à partir de 18h30 au Cube à Évreux pour une sélection musicale riche, variée, détonnante. Rejoignez-nous pour un moment partagé, convivial et festif. Le tout en totale gratuité. Bar et food sur site.
C'est désagréable à l'oreille, mais enfin, c'est bien ce qu'on entend en ce moment sur l'amélioration de fréquence.
À Évreux, 102.4, dans le sud de l'Eure, 95.9.
Et là, on va vous balancer de la musique. C'est parti, les gars.
Mandiri